il travaille actuellement sur l'espace, la géographie des services publics en Europe, en Allemagne, mais pas seulement. Et il s'intéresse en particulier à la dimension territoriale des inégalités dans le domaine de l'éducation. Donc Antoine.
Merci Guillaume, merci aux organisateurs de cette journée d'études. Je pars de l'idée que voilà, quand on se promène aujourd'hui à Berlin en 2019, quand on se promène notamment dans le quartier gouvernemental, en plein centre de Berlin, quand on se promène autour du Reichstag, quand on se promène autour de la chancellerie, quand on se promène autour de la Wilhelmstrasse, en fait, les traces du mur sont quand même relativement ténues. On est dans des espaces où, en fait, si on ne prête pas attention aux quelques signes, on n'a pas de conscience directe que le mur se trouvait là. Et on se trouve dans un espace qui est profondément neuf, moderne, avec des lignes particulièrement bien étudiées, très vert, avec de la place. Un jeu de lignes qui d'ailleurs surplombe l'ancien mur. Je fais notamment référence à l'image qui est en haut à droite, hein, l'espèce de passerelle qui passe et qui est joint différents bâtiments neufs liés au Reichstag et au bureau des députés aujourd'hui. Bref, on a ici un espace qui est hyper intégré, hyper moderne encore une fois, et où en fait le mur n'existe plus. Et même si on veut aller au-delà, le mur et puis donc toute sa matérialité, sa profondeur, ce dont on a parlé aujourd'hui, par exemple le No Man's Land, est utilisé aujourd'hui pour des espaces comme celui-ci. C'est une photographie qui est prise à travers la grille de la représentation permanente du Land Basse-Saxe à Berlin. Et la grille, elle, se trouve exactement à l'endroit où se trouvait le mur et donc le jardin qui sert pour des événements, notamment des événements mondains liés à l'activité politique à Berlin, en fait, se trouve dans l'ancien No Man's Land. C'est vrai que si on regarde cette image, on n'a pas trop l'idée que, ben, évidemment, il y a plus de 30 ans maintenant, il y avait à ces endroits-là des barbelés, des mitrailleuses et des miradors. Donc, il y a une transformation complète de Berlin dont on a parlé et qui est liée, pour ce qui est de mes recherches, également à un élément qui est consécutif à la réunification tout en étant indépendant de la réunification, c'est le déplacement des institutions fédérales de Bonn à Berlin. Et en fait, travailler sur cette question, aujourd'hui je vais moins le présenter comme un bilan qu'en fait comme une invitation à essayer de voir si, à travers ce déplacement des institutions, on n'a pas un effacement progressif qui s'est fait jour du mur, de la trace du mur, de la trace de l'ancienne frontière. Et pour cela, je vais utiliser trois moments. Je vais, pour ces trois moments, m'affranchir complètement de toute chronologie, voir en fait la trace de ces 30 ans, 89-2019, comme un tout, et pour revenir à la fois sur ce déplacement des institutions et voir un petit peu ce qu'elles peuvent impliquer à la fois dans ce domaine et à la fois dans le domaine donc, des inégalités régionales. Notamment parce que la question qui se pose avec les institutions fédérales, c'est finalement se dire est-ce qu'on n'est pas dans le cadre en Allemagne, après la chute du mur et plus encore 30 ans après, d'une espèce de retour à la normale de ce qu'est l'Allemagne vue sur le très long terme. Donc une Allemagne qui évidemment serait unifiée, qui évidemment aurait Berlin comme centre politique. Le déplacement des institutions serait un moyen, finalement, en quelque sorte, de dépasser encore plus que l'écroulement du mur lui-même et que la réunification soit l'élément symbolique qui parfait, en quelque sorte, la réunification. Et cette invitation à regarder si on peut aujourd'hui s'affranchir de cette ancienne frontière, elle est aussi liée au temps qui passe. On en a parlé un petit peu ce matin, mais je le rappelle, aujourd'hui, 30 ans après, il y a donc plus de temps qui est passé depuis la chute du mur qu'entre sa construction et sa chute. Pour donner une idée, aujourd'hui, en Allemagne, on estime qu'il y a environ 25 millions de personnes qui n'étaient pas nées en 1989. Et si on y ajoute ceux qui avaient moins de 10 ans, je fais appel aussi à ma génération, en 1989, on a aujourd'hui à peu près 40% de la population allemande qui soit n'était pas née, soit était juste enfant quand le mur est tombé. Et donc voilà, se poser la question, est-ce que c'est encore pertinent finalement de voir la division Est-Ouest comme la lecture unique des inégalités régionales en Allemagne. Alors, Première idée, pour le rappeler, la décision de partir à Berlin pour les institutions fédérales date de 1991. Alors, pour faire simple, la question de la capitale, on a deux pays qui se réunifient, donc deux capitales, Bonn, Berlin-Est. Mais comme on est sous la forme, sur le plan juridique, d'une intégration de la RDA dans la RFA, c'est évidemment à Bonn que vont être réglées les affaires courantes à partir de la réunification. C'est-à-dire que Berlin-Est perd sa substance de capitale dès le 3 octobre 1990. Berlin-Est n'est plus capitale d'aucun pays, puisque le pays est dissous, en quelque sorte. Et la question est considérée comme trop chaude pour être réglée au moment de la réunification. C'est pour ça qu'elle a lieu un an après. Et elle conduit donc à la décision sur laquelle je reviendrai tout à l'heure de déplacer les institutions à Berlin. Et cela sera effectif en 1999, avec un choix quant aux institutions, leur localisation, qui est au fond un choix qui va dans le sens d'une, comme je le disais, d'un retour à la normale, une normalisation, d'un retour en fait à une sorte de tradition politique des quartiers qui se trouvent autour du méandre de l'Achepré, du Reichstag depuis sa création aux années 1890, et la partie ouest de Mitte, et donc en contradiction avec le quartier gouvernemental de la RDA qui se trouvait autour du Palais de la République et des bureaux où se trouvait Honecker, etc. Ce retour à la normale, ce quartier qui a été créé, ce qui a été recréé autour du Reichstag, c'est quelque chose d'assez unique, puisqu'en fait il y avait des capacités foncières à cet endroit-là, au milieu de la ville, et c'est quelque chose, encore une fois, d'assez unique. Quand on se balade autour du Reichstag, il faut se dire qu'en fait, à 300-400 mètres à la ronde, il n'y a pas un bâtiment qui a plus de 20 ans, à part le Reichstag. Et c'est...
L'ambassade de Suisse.
Et l'ambassade de Suisse, tout à fait, effectivement. Qui est un héritage un peu incongru, mais l'ambassade de Suisse, tout à fait. Mais quand il s'agit de la gare centrale, des nouveaux ministères, c'est très clair. Et c'est un cas à peu près unique en Europe. Donc un espace, encore une fois, qui signifie en quelque sorte une sorte de fin de l'histoire. Et cette fin de l'histoire, en quelque sorte, qui va de pair avec la couture, la recouture de la ville, qui, encore une fois, est peut-être un petit peu une sorte de firmament. En fait, c'est construit de manière un petit peu originale dans ce cadre, parce que d'un côté, on a effectivement l'arrivée des institutions fédérales, donc en général dans des bâtiments tout neufs. Il y a très peu de bâtiments utilisés pour les fonctions d'État de la RDA qui sont réutilisés. On a parlé de la destruction du Palais de la République, on est dans cette même logique, un effacement complet de ce qui s'est... Il y a quelques exceptions, mais il y a beaucoup de ministères neufs. Hein. À Berlin. Mais surtout, ce retour à la normale s'accompagne de quelque chose qui est moins connu, qui est une division du travail, ce que les Allemands ont appelé une faire Arbeitsteilung, une division juste du travail entre Bonn et Berlin, et qui correspond en fait à des mesures de compensation pour la ville capitale d'Allemagne de l'Ouest, qui a perdu emploi et institutions. Et qui en vient, donc je vous montre, parce qu'on n'a pas trop d'images de Bonn, autant Berlin c'est bien connu, autant Bonn, voilà. Ici vous avez à gauche le Bundestag à Bonn, inauguré en 1993, il faut se le rappeler, et les bâtiments en second plan qui ont pu être utilisés pour les députés à l'époque. Et puis donc une image aussi de la chancellerie construite en 1976 sous Helmut Schmidt. On a dans le cas d'une situation un petit peu particulière, parce que nous avons d'un côté donc un quartier gouvernemental neuf, et en même temps une répartition des hauts fonctionnaires entre Bonn et Berlin. Bonn, où il est resté six ministères fédéraux, et où en fait pour les autres ministères, des bureaux sont restés à Bonn. En fait, il est décidé que pour tous les ministères, en gros les ministres travaillent à Berlin, mais la part des bureaux de leur propre ministère est variable. Et donc, encore une fois, pour six ministères, soit à peu près la moitié des ministères allemands, en fait, la plupart des hauts fonctionnaires devaient travailler à Bonn. Je dis « devaient » parce qu'au départ, il était prévu, en 1994, qu'un tiers des hauts fonctionnaires seulement déménagerait à Berlin, pour deux tiers à Bonn. Ce qui est aujourd'hui plus le cas, alors avec des incongruités, vous imaginez des organigrammes dans les ministères où vous avez des services à Bonn, des services à Berlin, et puis des services où vous avez une moitié de personnel d'un côté et l'autre moitié de l'autre, ce qui pose énormément de problèmes au quotidien. En fait, ça n'a pas été fait de façon absolument rationnelle. Et surtout, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très questionné parce que peu à peu, en fait, on est dans le cadre d'une, d'une situation où vous avez, où c'est quelque chose qui est très questionné. On estime qu'aujourd'hui, en fait, à peu près 80% des hauts fonctionnaires travaillent à Berlin pour 20% à Bonn. Et donc, la question qu'on peut se poser, ben voilà, Berlin donc serait devenue une capitale complètement normale parce qu'elle a réussi finalement, malgré les dispositions de 1991, à attirer à elle donc les, non seulement les hauts fonctionnaires, mais en fait aussi tous les services qui tournent aujourd'hui autour d'une capitale moderne qui, eux, ne sont pas divisés entre Bonn et Berlin. Je pense notamment au secteur de la diplomatie. Il n'y a plus d'ambassade à Bonn. Toutes les ambassades des 150, 160 pays du monde qui ont une ambassade en Allemagne se trouvent à Berlin. Vous avez le cas de tout un tas de métiers qui sont liés à la fonction de capitale, qui sont aujourd'hui tous à Berlin. Je pense au cas des médias, je pense aux lobbyistes, je pense aux chargés de communication, je pense à tous les services qui tournent autour des think tanks, ce genre de choses, mais aussi tous les secteurs qui sont impactés par la haute fonction d'État. On peut faire un inventaire là de Prévert, mais on peut compter des ONG, des agences de voyage, mais aussi des sociétés de gardiennage, de sécurité privée, de taxi, de restauration, d'hôtellerie haut de gamme, et j'en passe. Et donc, en fait, la capitale, Berlin, la nouvelle capitale, est devenue de plus en plus normale, et le déplacement des institutions apparaît comme quelque chose qui a accompagné le fait que Berlin a énormément changé en 30 ans. Et ça, que ce soit pour ses quartiers ouest, comme c'est que pour ses quartiers est. Je pense notamment à la tertiarisation de son économie. On est passé en fait d'une économie qui était très industrielle avant 1989, à l'ouest comme à l'est, et qui a connu une tertiarisation, donc à marche forcée, qui a conduit du coup à plus d'inégalités sociales, à un embourgeoisement de ses quartiers-centres, ce qu'on appelle en général la gentrification. Et avec deux éléments qui sont aujourd'hui à la fois un des éléments d'enrichissement de la ville, mais en même temps un gros facteur de problèmes sociaux. Je pense aux prix de l'immobilier qui ont énormément augmenté, en particulier dans la dernière décennie, à un rythme inégalé en Europe. Alors on peut se dire qu'effectivement Berlin partait de bas, mais aujourd'hui les prix berlinois sont à peu près au niveau de ceux de Lyon, mais pas les salaires moyens. Donc ça pose de plus en plus de problèmes sociaux évidents. Et puis un autre élément, et qui n'est pas complètement indépendant, c'est le tourisme. Le fait que en fait, Berlin soit passé d'une ville à 3 millions de visiteurs en 1993, qui était pour trois quarts des Allemands, en fait, du tourisme intérieur, à, en 2018, 13 millions de touristes, et qui était que pour 59% des Allemands. Avec une augmentation du nombre de nuitées, les problèmes aussi bien connus qu'on connaît vis-à-vis des nouvelles politiques anti-Airbnb, par exemple, de la mairie de Berlin, parce que ça pose un certain nombre de questions. Mais en même temps, en fait, cette tertiarisation, cette augmentation de l'embourgeoisement d'une partie de la population berlinoise, on peut se poser la question si, tout simplement, il ne s'agirait pas d'une normalisation de Berlin, en quelque sorte, c'est-à-dire que Berlin deviendrait, en fait, parce qu'elle a maintenant les mêmes problèmes que les grandes autres métropoles, en fait, serait devenue une capitale comme les autres. Alors, c'est aussi à double tranchant, parce qu'on peut se dire, oui, bah, vraiment, être comme les autres et avoir plus d'inégalités sociales, est-ce que c'est bien ou pas bien? Mais le problème n'est pas moral, le problème, il est juste qu'en fait, on se retrouve dans une situation où, bah, en fait, Berlin, qui était dans une situation d'exceptionnalité, l'est de moins en moins. Et ça, ça pose une question plus généralement, en fait, sur la position de la RDA en tant que telle. J'évoque juste une petite remarque. Il y a trois jours, j'ai entendu une interview. Alors, on ne s'est pas concerté avec Simon, mais je vais parler de Nicolas Offenstadt parce qu'il était invité sur France Inter. Et il explique à un moment donné quelque chose de très intéressant. Il explique, du coup, il parle de l'enrichissement du centre de Berlin, de ce que l'on voit aujourd'hui à Keschermark, et que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voyait en 1990. Et il dit aussi la chose suivante, il dit « Oui, mais ça, c'est pas l'ex-RDA. Ça, c'est pas l'ex-RDA, parce que l'ex-RDA, c'est un endroit qui a d'énormes problèmes. Et en fait, entre Keschermark et les fins fonds de la Saxe, il y a un monde. » Ce qui est vrai, c'est évidemment. Et il dit, voilà, si on compare par exemple Halle, qui a une économie qui périclite, et Leipzig, il y a un monde, mais Leipzig est une ville qui s'enrichit, mais ça, ce n'est pas la RDA. Et alors, je me dis, mais au fond, si en ex-RDA, tous les endroits qui vont un tout petit peu mieux sont sortis de la RDA, ça ne risque pas d'aller mieux en RDA. Mais ça renvoie à une idée assez intéressante. Vous disiez ce matin qu'il était impossible de décrire ce qu'était un Allemand de l'Est, en fait, aujourd'hui. Mais plus généralement, en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qui définit le territoire de l'ex-RDA ? C'est aussi un construit social, en quelque sorte, et en fait, qui est lié un peu à la carte que je vous montre, là, sur le niveau de vie. En fait, effectivement, la RDA d'aujourd'hui, c'est un construit. Et une autre anecdote, fin septembre, j'étais en colloque des géographes allemands qui avait lieu à Kiel, et il y a eu une session, il y a eu plein de sessions sur les 30 ans, mais il y a eu une session de discussion sur qu'est-ce que c'est que la RDA aujourd'hui. Et l'un des collègues dans le public, parce qu'évidemment aucun des membres de la tablée disait la même chose, disait finalement, est-ce que Ehemalige DDR, est-ce que c'est pas un politischer Begriff ? Est-ce que c'est pas en fait plus un concept qu'une réalité territoriale ? Et ça m'a semblé quelque chose de particulièrement intéressant. Du coup, je reviens sur mon déplacement de capitale, qui a eu lieu en juin 1991. Déjà, en fait, il portait en germe le fait que la division Est-Ouest n'avait rien d'évident pour expliquer toutes les inégalités territoriales en Allemagne. Car on l'a oublié, mais le vote en faveur d'un déplacement à Berlin s'est joué à 18 voix sur 658, ce qui est ridicule. Ce qui est vraiment ridicule et ce qui a permis à tout un tas de gens, de se donner la paternité de ça. Parce que notamment, bah, par exemple, les anciens communistes du PDS, qui étaient 18, ont dit « bah voilà, c'était grâce à nous ». Les Verts ont dit c'est grâce à nous, parce qu'ils étaient une trentaine. Helmut Kohl a dit c'est grâce à moi, parce que j'ai convaincu 18 personnes de la CDU. Il l'a dit dans sa biographie qui est sortie dans les années 2000. Bref, ça s'est joué à très peu. Mais une question que je me suis posée quand je me suis dit, ben, en fait, comment ça se passe ? Quels sont les députés qui ont voté pour Berlin ? Est-ce que c'est une division Est-Ouest ? Ce dont je faisais l'hypothèse. C'était oublié que en fait, les députés des zones est-allemandes ne formaient que 23% des députés. Donc d'où venaient les autres 30%? Il y a à l'époque même 29 députés d'ex-RDA qui ont voté pour Bonn. Et du coup, on a en fait une division de l'Allemagne dès 1991 qui est assez curieuse, mais une division de, voilà, est-ce qu'on déplace la capitale à Berlin ? Entre guillemets, pour aider l'Est ou pour revenir à la normale, ou est-ce qu'on reste à Bonn, qui est une position qui a été présentée comme un héritage d'une démocratie qui a réussi pendant la guerre froide et qui est plus prompt à gouverner dans un État fédéral. Cette question, du coup, elle ne regroupe pas une division Est-Ouest. Et en fait, beaucoup de commentateurs, mais ça se voit aussi dans les chiffres, en fait, trouvent que cette division recoupe fort bien une division protestant-catholique. Mais du coup, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la division Est-Ouest et comment on la voit dans les chiffres et comment on la voit dans les cartes. La première des choses, déjà, c'est qu'en fait, la division Est-Ouest, elle est quasi impossible, si on est rigoureux, de la voir dans les cartes, parce qu'en fait, il y a la question de Berlin. Est-ce que vous mettez Berlin dans la RDA ou pas ? Et si vous mettez Berlin, vous ne pouvez pas diviser aujourd'hui statistiquement entre les quartiers Est et les quartiers Ouest, parce que comme il y a eu une réforme des arrondissements en 2001 avec fusion d'arrondissements d'Est et d'Ouest, en fait, ça demande souvent beaucoup de travail et les données ne sont pas toujours disponibles. Donc vous avez par exemple une pyramide des âges où on se dit, oh ben non, les classes creuses à l'Est, ce sont les classes des retraités, ce qui n'est pas faux. Mais en fait, sur ce graphique présenté par les statistiques allemandes, fédéral, Berlin, qui est plus jeune, a été, y compris ses quartiers est, ont été retirés. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Deuxième critique qu'on peut faire, enfin, ou du moins précaution qu'il faut prendre, là vous avez ici le niveau de vie. Vous avez en fait à l'est des divisions que je ne nie pas entre est et ouest, qui sont toujours très très importantes, mais vous avez à l'est des régions qui sont très peu densément peuplées. Là vous avez par exemple en blanc les 80 Kreise les plus pauvres d'Allemagne. Beaucoup sont en ex-RDA, il y en a 6 qui sont dans la Ruhr. Ils sont donc aussi pauvres, et surtout, j'ai fait le calcul, ces 6 Kreise qui sont donc urbains sont plus peuplés que le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Donc en fait, où sont les pauvres en Allemagne ? Ils sont, oui, en RDA, mais aussi pas mal en ex-RFA. Je vais très vite. Alors là, vous en avez parlé hier, donc je reviens très vite. Effectivement, si on fait un découpage comme ça, on se dit, bah voilà, il y a deux points d'écart, toujours aujourd'hui, pour ce qui concerne le chômage. Mais si on s'amuse à faire d'autres divisions, par exemple celle-ci, Nord-Sud, eh bien on trouve exactement la même aujourd'hui. Et même si on s'amuse en fait à couper l'ex-Allemagne de l'Ouest, en fait on s'aperçoit que ce qui tire la croissance allemande depuis 10 ans, c'est surtout trois Länder, que sont la Hesse, la Bavière et le Bade-Württemberg. La Sarre et le Land de Brême sont aujourd'hui les Länder les plus endettés d'Allemagne par habitant, à la différence de la Saxe qui est le moins endettée. Donc il y a des espèces de retournements qui se font. Quand on parle des Länder, c'est assez intéressant. Vous savez qu'en Allemagne, les Länder sont solidaires les uns des autres. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup dénoncé dans les années 90-2000, du côté ouest, en particulier par la Bavière, avec tout l'argent qu'on donne à l'est, évidemment. Et en fait, on s'aperçoit que quand on regarde les contributeurs et les bénéficiaires, certes, les contributeurs sont tous en ex-RFA, mais il n'y a pas que la ex-RDA qui profite de la solidarité nationale. Dernier élément sur cette idée, vous avez aussi un certain nombre de cas d'effacement progressif des divisions dans des domaines qui semblaient jusque-là un peu les plus emblématiques de la division Est-Ouest. C'est en particulier le cas pour la fécondité aujourd'hui. Alors autant en 1995, effectivement, on est descendu à des niveaux jamais vus en Europe. Mais on est remonté et en fait aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de différence Est-Ouest et même il n'y a plus vraiment de différence entre les Länder. En fait, même la carte automatique faite par l'Institut fédéral statistique n'arrive même pas à mettre autant de chiffres après les virgules, ce qui fait qu'on voit bien des différences de couleurs, mais c'est à peu près les mêmes valeurs, quel que soit l'endroit où on est en Allemagne. Je vais vite pour une dernière idée. Autre domaine, par exemple la garde des enfants. La garde des enfants qui était présentée comme aussi le thème sur lequel il y avait une différence Est-Ouest. Cette différence n'existe aujourd'hui que pour les plus petits, les 0-2 ans. À partir de 2 ans, en fait, on ne voit plus de différence entre Est et Ouest, en particulier parce qu'il y a des lois pour fournir des places en crèche et en maternelle. Ce qui, du coup, d'ailleurs, pose un petit peu la question de savoir si, en fait, on parle de rattrapage de l'Est sur l'Ouest ou, dans certains cas, de rattrapage de l'Ouest sur l'Est. Mais ça, c'est une petite... Et une dernière idée que je ne vais pas avoir le temps de beaucoup développer, une question qui s'était posée au moment du déplacement de la capitale, c'est la réorganisation complète de l'administration allemande et le fait qu'en fait, vous avez, je passe très vite, mais en gros, une réorganisation complète de tous les services fédéraux, de telle manière que des services fédéraux, vous en ayez partout dans le territoire, et y compris du coup dans les nouveaux Länder, avec l'idée derrière que si l'administration fédérale se trouve partout, ça va être important d'un point de vue symbolique, mais aussi que ça va être une espèce de levier d'emploi. Et la question derrière, c'est de se dire, en fait, finalement, est-ce que les divisions Est-Ouest, c'est une division Est-Ouest, ou est-ce que les vraies divisions en Allemagne sont des divisions qui vont être plutôt locales ? On a beaucoup lié ces difficultés sociales aux choix électoraux en Allemagne de l'Est, avec l'idée que c'est en ex-Allemagne de l'Est qu'on va avoir les plus gros scores pour l'extrême droite, les moins gros scores pour les verts, avec des effets de stigmatisation qui sont vraiment importants. Et pourtant, en fait, on a de vraies divisions, on a des espaces qui sont de plus en plus divers à l'intérieur de l'ex-Allemagne de l'Est, et en particulier entre les espaces métropolitains et les espaces ruraux, qui sont ceux où va y avoir une désaffection des services publics, où il va y avoir en fait, bien sûr, désindustrialisation comme dans les villes, mais pas remplacement par du secteur tertiaire. Bref, tout ce qu'on connaît et qui est le fondement du déclassement de l'ex-Allemagne de l'Est. Mais c'est quelque chose qui est peut-être plus fort en ex-Allemagne de l'Est, peut-être parce qu'on part plus loin, peut-être parce que c'est pas de chance, et là, la RDA n'y est pour rien, mais l'ex-Allemagne de l'Est est plus rurale que l'ex-Allemagne de l'Ouest. Mais ce sont des phénomènes que l'on trouve aussi à l'Ouest. Et l'auteur du livre dont j'ai mis une copie ici, Manfred Kuhn, est quelqu'un qui travaille en ex-Allemagne de l'Est, sur l'ex-Allemagne de l'Est, qui travaille sur les questions de périphérisation, ce qu'on appelle en Allemagne la périphérisation, et qui décrit dans ce livre cette question-là à partir de la ville de Pirmasens, qui est en fait pas du tout à l'Est, elle est près de la frontière française, juste au nord de la Moselle, qui est l'ancienne capitale allemande de la chaussure. Je dis ancienne parce qu'en fait, c'est une industrie qui a périclité et cette ville a perdu entre 20 et 30% de sa population. Et il en fait l'exemple, au fait, des villes qui périclitent aussi en Allemagne. Et donc, la question que je pose un petit peu en conclusion, c'est de dire, en fait, finalement, au-delà de cette division Est-Ouest qu'on pose, que évidemment on trouve puisque c'est la seule qu'on pose, en fait, peut-être que la manière d'aborder le problème, c'est de dire, ben, on va essayer de regarder quelles sont les inégalités en Allemagne et voir si par hasard, on ressort la division Est-Ouest plus que d'autres. Et voilà, c'est une question en suspens. On se retrouvera sans doute pour en reparler.